Papa, et non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère. C'est devenu ultra simple, notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme de site web tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canons dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos propres campagnes email. Vous pouvez même vendre vos propres formations en ligne. Donc si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. N'hésitez pas et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Et comme vous le savez, évidemment, c'est mercredi. Et qui dit mercredi dit leçon. Qu'est-ce que c'est que ces leçons pour ceux qui ne le sauraient pas encore? Eh bien, c'est tout simplement un moment privilégié entre l'un d'entre vous et moi où on va discuter de vos enjeux du moment. Et ce sont, il faut le dire, quand même bien souvent des enjeux business où je vais essayer tant bien que mal de répondre à vos questions et puis de vous aider tout simplement en réfléchissant avec vous. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Julie, qui est la cofondatrice de la marque Nuo. Nuo, qui est une très très jolie marque de cosmétiques que je vous invite à découvrir, et je vous mets d'ailleurs dans les notes de l'épisode le lien vers le compte Instagram Nuo Box. Comme le résume très très bien cette bio Instagram d'ailleurs, Nuo, c'est tout le meilleur de la beauté bio et naturelle, une box beauté mensuelle avec un e-shop et maintenant 6 boutiques en France. Le sujet de Nuo et de Julie en ce moment, c'est quoi? Tout simplement qu'ils vont lancer pour la première fois un produit en propre. Donc, ils prévoient de faire un grand lancement. Et c'est à ce propos que Julie avait des questions. Elle m'a pourchassé pour me pousser dans mes retranchements et me demander comment faire un bon lancement, quelles sont les meilleures pratiques, quelles sont les erreurs à éviter. Et j'ai essayé autant que j'ai pu de répondre à ces questions. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Julie.
Salut Pauline.
Écoute, je suis enchantée d'être avec toi aujourd'hui. J'espère que tu vas bien d'abord.
Oui, ça va très bien. J'espère que toi aussi. Je suis ravie de te retrouver parce qu'on s'était déjà eu en leçon 12 du gratin en 2019.
Oh là là. Oh, mais tu fais partie des... Désolée, j'ai presque envie de t'appeler vieille branche. Super. Eh bien écoute, génial. C'était à quel sujet cette leçon à l'époque ?
À l'époque, si tu veux, on était 6, nous. Maintenant, on est une trentaine.
Génial.
Et le sujet, la question que je t'avais posée, c'était justement comment gérer le fait de passer de 6 personnes à 30 avec du management délocalisé. Et voilà, et t'avais plutôt très très bien répondu à mes questions. J'ai réécouté.
J'allais te demander si la leçon avait été utile ou ouais. Si en fait c'est vraiment du gros foutage de gueule et qu'en fait tu t'es...
Non, je l'ai réécouté après coup parce que c'est vrai qu'en fait on n'écoute pas vraiment quand ouais. On parle avec toi, tu vois, on est un peu dans le flow et puis on écoute mais on n'arrive pas à tout imprimer. Et je l'avais réécouté et j'ai mis en place des choses qu'on a toujours en place actuellement.
Trop chouette. Ouais. Bon, écoute, on rebelote alors, j'ai envie de te dire.
C'est reparti.
Très bien. Alors Julie, je veux bien quand même que tu te représentes si tu l'acceptes et que tu nous dises qu'est-ce qui t'amène une deuxième fois sur cette leçon.
Avec plaisir. Donc, je suis Julie Richard, je suis la cofondatrice de Nuo. On est une entreprise qui est spécialisée dans la cosmétique bio à travers un e-commerce où on rassemble à peu près 4000 produits qu'on trie vraiment sur le volet. Et puis, on a aussi une box beauté bio par abonnement pour que les gens puissent découvrir la cosmétique bio, tester les produits, etc. Et enfin, on a 6 magasins en France dédiés vraiment à la cosmétique bio avec une boutique à Lyon, à Nantes, à Angers, à Rennes, à Orléans et à Clermont. Voilà, et notre job, c'est vraiment de sélectionner le meilleur de la cosmétique pour que les gens puissent acheter les yeux fermés, puissent s'enlever un peu la charge mentale de se planter. Tu vois, les listes d'ingrédients, c'est un petit peu compliqué. Mmh. C'est pas toujours... on a peur de se tromper. Donc là, nous, on sélectionne vraiment pour eux. Et puis notre job aussi, c'est de les aider par le conseil et la pédagogie. Voilà, tous ceux qui ont envie d'adopter une cosmétique plus saine et plus durable. Voilà.
Écoute, très impressionnée par le développement en tout cas, ça fait vraiment plaisir, finalement assez peu de temps quand même. Mais alors du coup, qu'est-ce qui t'amène avec moi aujourd'hui ?
Alors, ce qui m'amène aujourd'hui avec toi, c'est que depuis 3 mois, on a lancé notre propre marque de cosmétiques. Okay. Jusqu'alors, on était distributeur et maintenant, on a vraiment notre propre gamme capillaire. Ça a hyper bien démarré, on est très contents. Mais on aimerait développer d'autres produits. Et moi, j'aimerais tes conseils, notamment sur comment faire un bon lancement de produit. Voilà, je sais que chez Gémio, vous en lancez régulièrement. Vous m'avez l'air très forte sur le sujet. Et donc, je voulais un peu ton retour par rapport à ça.
Alors écoute, c'est intéressant comme question parce qu'en réalité, comme tu sais certainement, j'ai 2 casquettes. J'ai mes lancements produits Gémio, donc qui sont des produits de joaillerie. En général, les lancements de produits, c'est pas toujours le cas, mais c'est quand même beaucoup au travers de collections. Ça peut être des produits individuels, on a d'autres formats, on va dire, de lancement, les rendez-vous de la création, ce qu'on appelle aussi les inspirations. Donc on a effectivement plusieurs types de formats et je pourrais t'en parler. Et puis j'ai aussi mon autre vie, même si elle me prend moins de temps que Gémio, mais c'est la vie avec Demian, donc de mes formations. Et là aussi, c'est des lancements, malgré tout. Enfin, même plus que malgré tout. Je te propose qu'on mêle un petit peu toutes ces expériences parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de différences entre les deux. Ce que je peux te dire, c'est que dans le cadre de Gémio, nous, en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait pas de teasing particulier. Par contre, il y a un énorme travail en amont. C'est le cas aussi pour Demian, bien sûr, mais il y a un énorme travail en amont de création de contenu, notamment, pour vraiment, en fait, pouvoir parler de notre offre ou de notre produit ou de nos collections pendant quand même un temps assez allongé, avec plein d'angles différents, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais même sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, par exemple, que ce soit, si tu veux, sur le site internet, que ce soit via nos forces de vente. Donc, en fait, on va vraiment construire un lancement hyper 360 qui va nous permettre de pouvoir avoir de la récurrence. Parce que très souvent, les lancements, et c'est pour ça que je te faisais la différence entre les lancements de produits de marque comme ceux de Gémio et de formations qui sont un peu différents, je trouve. Très souvent, les lancements, c'est un peu du one shot et c'est assez rapide et efficace. Et quand tu vois des lancements qui sont plus des lancements type lancement de formation ou de certains produits B2B SaaS, par exemple, ça va souvent être très, très concentré dans le temps sur, tu vois, 1 mois ou 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Quand tu te lances un produit de marque, je sais pas exactement du coup comment vous comptez le faire, mais a priori, c'est un produit que tu vas vendre, si ce n'est toute la vie, en tout cas pendant fort longtemps. Et donc du coup, c'est vrai que c'est bien d'avoir ce momentum important au départ, mais il va falloir continuer à entretenir quand même la fibre. Et donc finalement, le terme de lancement est important, mais c'est peut-être ça. Je te fais une réponse très longue pour te donner l'insight, qui est que si j'ai bien appris quelque chose avec Gémio, c'est qu'en fait, oui, il faut préparer beaucoup de contenu, mais pas uniquement pour le lancement, en fait, parce que finalement, ça va faire partie du job que de donner vie à ce produit dans la durée. Et c'est pas parce que quelqu'un a vu ton produit, tu vois, au moment du lancement qu'il va l'acheter à ce moment-là. Et donc, en fait, se rappeler au bon souvenir de tes clients est vraiment quelque chose qui est très important. Et moi, je trouve d'ailleurs dommage, bien souvent, qu'on voit des marques être très bons sur un lancement. Et puis ensuite, si tu veux, il n'y a plus personne. Au bout de quelques mois, on est passé à autre chose. On est passé à un nouveau produit. Et du coup, le produit, il vit pas comme il devrait. Ça fait un peu le petit effet, hop, oui, la petite courbe de croissance et bam, ça retombe derrière. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu, si tu veux, suffisamment d'investissement dans le temps. Donc déjà, voilà, premier discours alambiqué, mais néanmoins qui a un sens, je crois, qui est de te dire, si t'es sur un produit de marque, et j'ai l'impression que c'est le cas, je te conseille de plutôt adopter cette technique-là, qui est une technique en fait de temps relativement long, où oui, tu fais un momentum durant ton lancement, mais surtout, il faut pas que tu lâches. Il faut pas que tu lâches la pression sur ce produit, surtout si au démarrage vous en avez pas beaucoup et que c'est un produit qui compte pour vous, parce qu'en fait, malgré tout, le désir met du temps à monter, c'est normal chez un client.
Hyper intéressant, c'est vrai qu'on a tendance à lancer et puis à se dire c'est bon, c'est fini, on attend. Mais en Exactement. Fait, c'est pas du tout une bonne stratégie. Je pense que oui, c'est vraiment sur la durée. Vous lancez combien de produits par exemple chez Gémio sur une année?
Alors en général, on lance 3 ou 4 collections par an, sachant que par collection, il y a à peu près 8 produits, 9 produits. Et en plus de ça, on a, je te dis, d'autres types de lancements qui sont des lancements plus petits, qui sont des lancements avec 2-3 produits, par exemple, à chaque fois, un univers qui est un peu moins abouti, dans le cas des rendez-vous de la création, qui sont donc un deuxième type de lancement, et dans le cas des inspirations, à chaque fois, c'est 1 produit au cas par cas. Donc en fait, au final, si tu veux, sur l'année, franchement, on n'est pas loin... on n'est pas loin, je dirais, de, je vais pas te dire de bêtises, hein, parce que j'ai pas fait le chiffre total, mais je pense que ça dépasse, ça doit dépasser les 70 produits, tu vois. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et donc, ça nécessite effectivement énormément de travail, tant au niveau des contenus, des pricing, etc., etc. Et puis surtout, bien sûr, de la conception en fait, hein, du produit. Donc, vous aussi, si vous en faites, enfin, on n'a pas toujours lancé autant de produits. Hein. Au début, on en faisait moins. Et je pense d'ailleurs qu'il faut pas en faire trop non plus. Là, on est dans un dosage, tu vois, qui est relativement équilibré. Mais il faut pas non plus. Enfin, personnellement, je ne crois pas. Enfin, c'est pas que je crois pas, mais je pense qu'à un moment donné, quand tu lances trop de produits, t'arrives plus justement à donner la place à chacun. Donc ça, c'était peut-être le premier point. Après, le deuxième point que je voulais évoquer avec toi, c'est qu'un lancement, évidemment, ça se passe sur ses propres terrains, donc sur tout ce qu'on appelle souvent le owned media, donc tes réseaux sociaux, ton site internet. Si jamais t'as une agence RP qui bosse pour toi, effectivement, j'imagine que vous allez faire des communiqués de presse, des choses comme ça. Et puis, bien souvent, en fait, on a intérêt quand même dans le cadre d'un lancement produit à se dire ok, comment est-ce que je peux pousser le produit par ailleurs via d'autres biais, et notamment des biais en fait de médiatisation, donc soit via des sponsoring bien sûr, mais aussi pourquoi pas des partenariats. Et en fait, bien souvent, ça peut être via de l'influence, via des blogs, mais ça peut être aussi via des marques avec lesquelles tu pourrais collaborer, via des distributeurs. Ça, c'est quelque chose qui est en général beaucoup plus chronophage, donc j'ai tendance à dire qu'il faut commencer déjà par le own media et bien backer, si tu veux, cette partie là qui est en fait le nerf de la guerre, hein, c'est-à-dire concrètement tout ce que tu contrôles profondément, en fait, que tu mises dessus. J'insiste parce qu'en fait, j'ai quand même remarqué qu'il y a pas mal de personnes, quand ils lancent des produits, qui ont tendance à plus se focaliser sur essayer de faire un partenariat que sur d'abord bien, tu vois, gérer leur lancement sur leur propre plateforme. Donc je pense qu'il faut d'abord, si tu veux, remettre l'église au centre du village et se dire, en fait, d'abord, je veux que mon lancement il soit top auprès de ma clientèle, surtout que vous en avez déjà une belle. Donc tu vois, dans tes boutiques, qu'il y ait les PLV qui vont bien, etc., qu'il y ait un discours de vente peut-être qui a été réfléchi, je sais pas, de l'upsell pour tes conseillères de vente, qu'elles puissent justement spontanément parler de tes produits avec des petites fiches qui leur expliquent, etc. Donc, il y a déjà un gros travail à faire d'interne. Et franchement, moi, je te dis, pour un premier lancement, surtout si vous avez la chance d'avoir déjà une marque, enfin, le mérite surtout d'avoir une marque qui existe, qui a sa clientèle, moi, je passerais quand même beaucoup de temps sur l'interne, donc sur le own media. Et ensuite, dans un deuxième temps, mais peut-être que tu peux justement le faire dans un deuxième temps pour réactiver le lancement. Là, ensuite, tu vois, une fois que tu as eu une première réception face à ta diffusion interne, donc via tes réseaux sociaux, via ta newsletter, via tes boutiques, via ton CRM client, etc., là, en fait, tu peux commencer à dire « Ok, comment est-ce que je fais vivre ce lancement dans la durée ?» Et donc là, en fait, tu fais des piqûres de rappel, quoi. C'est comme une animation commerciale. Et donc, ça peut être via de l'influence, ça peut être via des blogs, ça peut être via des RP, ça peut être via, je sais pas, des co-branding avec l'une de tes boutiques, où tu fais venir pour un événement, je sais pas, des personnes qui pourront... parler de produits capillaires, enfin tu vois de la beauté du cheveu, j'ai n'importe quoi, mais ça peut être assez intéressant, et ça donne un second souffle en général à un lancement si tu arrives à trouver avec des angles différents, et donc ce qui va faire que ça peut intéresser une autre cible ou se rappeler au bon souvenir d'une cible qui n'était peut-être pas prête, tu vois, au moment où tu as fait ton lancement.
Toi, t'as souvenir justement de partenariats que t'as fait et qui ont justement réactivé ou en tout cas peut-être transformé ces consommateurs qui avaient pas encore vu ou qui étaient pas forcément dans ton radar de haut de média à la base.
Ouais, il y en a eu plein. Tu vois, nous, sur une catégorie qui est très importante pour nous, sur tout ce qui est bague de fiançailles, il y a eu un moment, pour tout dire, où on a toujours vendu beaucoup de bagues de fiançailles et d'alliances, mais il y a eu un moment où une de nos collections en particulier stagnait un peu sur les bagues de fiançailles. Et donc, on se posait la question, on a essayé de la mettre plus en avant sur nos réseaux sociaux, etc. Et en fait, il n'y avait pas énormément de changement. Il faut dire que notre cible la connaissait bien. Et en fait, on a été chercher des partenaires, typiquement des blogs, et notamment des blogs hommes, qu'on avait assez peu démarché précédemment, pour parler justement de comment est-ce qu'on cherche une bague de fiançailles, quelles sont les erreurs à ne pas commettre, comment reconnaître la qualité d'un diamant, etc. Donc des contenus très pédagogiques sur une audience, tu vois, qui naturellement en fait peut être intéressée parce qu'un jour ils achètent une bague de fiançailles, mais qui n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de contenu, parce que en général, comme c'est des blogs pour hommes, si tu veux, ils parlent de fringues pour hommes, mais ils parlent pas beaucoup de ce genre de choses. Et donc en fait, c'était très win-win parce qu'on leur a apporté un contenu qui était assez différent et intéressant et très pointu, si tu veux, au niveau technique. Mais en même temps, nous, ça nous a été aussi très utile parce que ça a complètement relancé cette collection, parce que c'est surtout celle-là qu'on a mis en avant, pour justement aller chercher une autre cible, on va dire, qui était une cible plus masculine que celle qu'on a, nous, traditionnellement, tu vois, sur notre base et sur nos réseaux sociaux. Et donc, oui, tu vois, ça s'est arrivé, franchement, plusieurs années avant le lancement initial de cette collection.
Ouais, c'est fou. Alors que c'était effectivement, en tout cas, une cible qui n'était pas adressée à la base et qui a permis de faire acquérir.
Ouais, et puis il y a autre chose. Alors une fois de plus, je suis sur un métier très particulier avec la joaillerie, avec Gémio, mais nous, combien de fois il nous arrivait de lancer une collection qui marchait pas mal au démarrage, mais il se passe un truc, elle marche pas mal au démarrage, et au bout de 5, 6, parfois 8 mois, tout d'un coup, là, ça s'emballe. Ça s'emballe, mais nettement plus tard. Et ça, ce temps long, c'est pour ça que j'ai commencé par te parler de ce point. C'est très, très important de l'avoir en tête quand on vend un produit. Quand on vend un produit qui nécessite quand même de prendre une décision. Alors, vous n'êtes peut-être pas sur des produits aussi coûteux que les nôtres. C'est vrai qu'en joaillerie, c'est normal qu'on mette un petit peu plus de temps si tu as décidé. Mais néanmoins, donc, vous n'allez peut-être pas avoir à attendre 9 mois et tant mieux. Mais c'est vrai que moi, je suis toujours étonnée. Et pourtant, c'est ce que je constate à chaque fois. C'est pas parce que tu fais un lancement que les gens sont prêts à acheter tout de suite. C'est peut-être pas le bon moment pour eux. Ils viennent peut-être de déménager. Il y a besoin quand même vraiment d'une répétition. Et au-delà d'une répétition, d'avoir un bon timing. Je pense que le timing est assez clé, si tu veux, dans beaucoup de décisions d'achat. Et oui, tu vas avoir ta base de fans, ce qu'on appelle souvent les 1000 true fans, donc vraiment ceux qui, d'une manière ou d'une autre, quoi que tu fasses, ils achètent. Ceux-là, ils vont acheter tout de suite et c'est pour ça que ton lancement, il est important dès le départ. Mais par contre, tous les autres qui ont besoin de plus, avoir le bon moment, d'être convaincus, de peut-être tester d'autres choses, etc., ceux-là, en fait, il faut pas que tu les perdes parce que c'est souvent le gros du marché, sincèrement. Et ceux-là, ils nécessitent d'être réactivés très régulièrement. Et donc, c'est pour ça que je te disais que quand tu fais un lancement, n'oublie jamais en fait de continuer à disséminer dans le temps tes contenus pour pouvoir aller chercher ce type de clientèle. Parce que je te dis, même sur un produit capillaire qui coûte pas si cher que ça, tu vas pouvoir aller en fait rechercher de nouveaux clients qui font partie de ta base sans doute actuelle, mais qui n'envisagent pas au démarrage d'acheter ton produit et qui, on sait pas pourquoi, 6 mois plus tard, ils ont un problème de cheveux, quelqu'un leur a parlé de toi, etc. Je ne peux pas te dire, ça va les décider. Et c'est beaucoup plus puissant qu'on ne croit.
Et Pauline, je rebondis là-dessus, tu parlais de timing, justement dans un lancement, c'est quoi l'importance du timing, tu vois, dans l'année, est-ce que vous, chez Gémio, il y a une histoire aussi de saisonnalité, où il y a des saisonnalités, j'imagine, des temps forts qui sont plus pertinents pour lancer ou pas?
Oui, le timing est très important. Évidemment, un peu comme quand tu crées une entreprise, avoir une bonne idée, c'est bien. Mais en fait, ce qui compte, c'est avoir une bonne idée au bon moment. Et de la même manière, en fait, pour un lancement, je pense que le timing est totalement clé. C'est moins le cas en joaillerie, très honnêtement, puisque, comme je te disais, les décisions d'achat sont tellement longues dans notre cas qu'en réalité, tu vois, tu sors une collection en janvier, en tout cas les gens vont commencer à considérer un achat plutôt en octobre, quoi. Donc en tout cas dans notre cas, c'est pas très important. En revanche, pour Demian, et du coup là c'est mon autre casquette qui parle, le timing est clé parce que tu vois, des thèmes qui sont liés à certains moments de vie vont si tu sors ton produit au bon moment, tu vas avoir un impact qui est clé. Je discutais il y a pas très longtemps avec une personne qui a travaillé pendant des années chez Mythic, tu sais, l'entreprise de rencontres, et qui me disait nous, par exemple, tous nos grands lancements, c'était en janvier, parce que c'est bête à dire, mais en janvier, t'as passé Noël avec ta famille. Si jamais t'étais encore single, c'est horrible ce que je raconte, mais t'es un peu déprimé parce que tout le monde t'a dit « Ah, t'es pas encore en couple, là. » Et du coup, pic de connexion, toujours le premier dimanche du mois de janvier, et qui fait qu'ils faisaient des campagnes, si tu veux, tous les mois de janvier, qui cartonnaient, qui rassemblaient énormément de monde, parce qu'en plus, le côté bonne résolution, machin. Et donc, en fait, pour eux, c'était le moment où il fallait tirer et mettre toutes les cartouches de son côté. À l'inverse, tu vois, s'il l'avait fait, je sais pas, en septembre, alors que c'est la rentrée, ou j'en sais rien, peut-être que septembre était un bon mois en l'occurrence, mais il y a d'autres périodes, tu vois, qui étaient pas les bonnes périodes. Donc oui, le timing, en fonction des business, peut être très important. Et je pense que dans le tien, il faut effectivement que tu te poses la question et que tu dises, a priori, qu'est-ce qui peut être un bon moment pour mes clients, quoi. Et donc, très souvent, c'est vrai que le timing, on le réfléchit par rapport à nos propres contraintes, en se disant, je peux le sortir à telle date, ou ça m'arrange parce que je sais pas quoi, il y a Noël qui approche, etc. Mais si profondément tu réfléchis, un peu comme je te le donnais avec l'exemple de Mythic là, à quels sont potentiellement psychologiquement, tu vois, des choses qui vont se passer chez tes clients qui vont faire que peut-être ils vont plus avoir besoin de ton produit, a priori, tu mets beaucoup plus les chances de ton côté. Bah, typiquement, sur ton produit, tu penses qu'au niveau du timing, qu'est-ce qui pourrait être pertinent?
Je pense à la fois le timing avant l'été, parce que c'est des périodes où on prend beaucoup soin de ses cheveux, même si, de manière générale, de plus en plus, c'est toute l'année. Et après, la rentrée aussi. La rentrée, c'est aussi une bonne période. Après, ça dépend du type de produit capillaire. Tu vois, dès qu'on est sur du masque capillaire, un peu nutritif, bon bah c'est la bonne période l'été, parce que les cheveux sont souvent asséchés. Voilà, là on a lancé une gelée boucle. Tu vois, c'est pour les cheveux bouclés. Ça, c'est tourné toute l'année. Donc, il y a pas tant de saisonnalité que ça sur certains produits. Ça dépend vraiment du type de produit aussi.
Ouais, bien sûr. Bah, c'est pour ça. Je te dis, il y a des produits qui ont moins de saisonnalité. Après, autre moyen aussi. Potentiellement t'aider dans tes prises de décision. Pose-toi aussi la question de la concurrence et notamment de est-ce que ce soit de la concurrence si tu es direct ou indirect, hein, d'autres produits de beauté ou des achats, sincèrement, est-ce que tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont communiquer en même temps que toi ? Et très souvent, en fait, l'idéal, c'est d'être plutôt positionné sur des moments qui sont un peu creux parce que forcément, tu vas plus émerger. Et donc, typiquement, si je reviens à Mythique, le mois de janvier, de ce point de vue-là, est assez brillant et tant mieux pour eux, en plus, si c'était un bon timing, parce que traditionnellement, il y a les soldes, mais si tu veux, les gens ont tellement dépensé d'argent sur novembre, décembre pour Noël, que finalement, janvier est quand même historiquement plutôt un mois creux en termes de publicité. Et donc, c'est vrai que si toi, t'es très présent à ce moment-là, bah, tu vas émerger d'autant plus. Septembre, souvent, c'est quand même un moment où il y a énormément de mise en avant autour, tu vois, de l'école. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses aussi, parce que c'est la rentrée des classes, justement. Donc, tu sais quand même, globalement, que publicitairement parlant, tu vas être plus en concurrence que, par exemple, le mois de juin, le mois de juillet, où franchement, il se passe quand même beaucoup moins de choses. Donc ça peut être aussi intéressant dans ta prise de décision.
Exactement. Pauline qui dit lancement, tu disais communication 360, ça c'est aussi un budget. Qu'est-ce que tu penses justement de ça, de l'investissement qu'il faut prévoir ou pas? Est-ce qu'on peut faire des choses, je sais bien, qui coûtent pas cher et d'autres qui coûtent un peu plus? Comment toi tu t'envisages la chose avec les 10 ans d'expérience de lancement?
Écoute, ce que je peux te dire, ce qui paraît, ça va être déprimant peut-être pour les marketeurs qui nous écoutent, mais bon, je vais te dire parce que c'est ce que je pense. J'essaie d'être honnête avec vous. C'est que en réalité, moi je crois qu'il faut commencer à investir en marketing et donc dépenser beaucoup d'argent une fois et seulement une fois que tu sais que ça marche. Si tu le fais avant, tu vas pas du tout être rentable et tu vas dépenser de l'argent vraisemblablement assez inutilement. Et donc, mais j'ai mis beaucoup de temps à comprendre cette vérité très simple, qui est que en fait, ça n'est pas le marketing qui fait que ça va marcher, c'est ton produit. Et que si tu as un bon produit, mais ça tu le sauras seulement une fois que les clients ont commencé à l'acheter, et quand il est vendu presque de manière naturelle, ça veut dire que tu as touché quelque chose de juste. Grâce au timing, grâce au discours, grâce à tous les éléments qui font ton produit, eh bien, une fois que tu auras ça, là, oui, il faut investir et aller beaucoup plus loin. Je parle souvent, en fait, de vagues. Je dis souvent que ça soit pour un lancement produit, que ça soit pour, en fait, son entreprise, si tu veux, une idée quand on veut la lancer, etc., on a intérêt plutôt à surfer des vagues. Et donc, si tu sens qu'en fait, tu as un bon produit, ça veut dire que tu as une vague sur ce produit, là, oui, il faut pagayer comme un malade pour aller le plus loin possible. Si, à l'inverse, en fait, ton produit, sincèrement, c'est une petite vaguelette un peu pourrie, parce que, c'est comme ça, on se plante tous, hein, et tu vas en avoir des produits qui font des petites vaguelettes, c'est tout à fait normal. En fait, si t'as beau pagayer, tu vas pas aller très très loin, tu vas t'épuiser, et ensuite, pour le prochain lancement, si jamais t'as une grosse vague, t'auras peut-être même plus assez de force pour aller pagayer comme un fou. Et donc, tout ça pour te dire, avec cette métaphore un peu pourrie, j'en suis désolée, que tu as intérêt, selon moi, à doser ton investissement marketing. C'est pour ça que j'en reviens à mon premier conseil qui était de commencer déjà par ton own media. Donc en fait, d'une certaine manière, c'est tu prétestes, si tu veux, la force de ton produit sur ta propre audience. Et une fois que tu sens s'il y a vraiment quelque chose, et tu vas le sentir très vite, si tu sens que ça s'emballe un peu plus que d'habitude, si tu sens que tu as des super retours, là oui, vas-y à fond et investis. Mais si tu le fais prématurément, tu vas te rendre compte que tu vas espérer que ça marche à cause de ton marketing. Mais une fois de plus, vraiment la vérité que je tiens à te dire et que je dis à tout le monde, c'est ça n'est pas le marketing qui va faire que ton produit va se vendre. Ton marketing va aider à amplifier un produit qui est de qualité.
Ok, hyper intéressant.
Donc oui, à faire, mais tu vois, à faire plutôt dans un second temps, comme je te le disais, pour faire continuer à faire vivre ton produit, et puis surtout à investir, par exemple, via de la diffusion publicitaire, tu vois, ça peut être dans la presse, ça peut être sur les réseaux sociaux, bien sûr, ça peut être via Google. Je te dis pas d'en faire pas du tout au démarrage, mais j'aurais tendance à le minimiser, à voir si ça fonctionne, et ensuite je te dis appuyer dessus.
Hyper intéressant. J'avais une question, Pauline, sur aussi la distribution. Je sais pas, toi, si justement tes produits sont vendus ailleurs que chez Gémio.
Non, nous, Gémio, on a une caractéristique assez unique dans le monde de la joaillerie, c'est qu'on est, on ne distribue que nous-mêmes nos propres produits.
Ok. Bon, c'est une question que je te pose quand même. Est-ce que justement étendre son réseau de distribution, ne pas rester que sur son propre réseau, peut aussi permettre, d'avoir un lancement qui est plus important ou pas?
Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si c'est pour le lancement nécessairement. Tu vois, typiquement, ça peut être un très bon moyen de continuer à faire vivre ton lancement. Mais oui, pourquoi pas. Enfin, surtout, c'est vrai que dans le monde de la cosmétique, aller un jour te faire placer chez Sephora et autres, sans citer de marque, c'est sûr que ça peut avoir un impact énorme. Ça peut être aussi les pharmacies. Enfin, il y a plein de moyens de distribuer dans le monde de la cosmétique. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que si... vos pricing le permettent, parce que c'est ça aussi souvent l'enjeu quand même, donc si ta marge te le permet, franchement ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous qui serait à tester. Je suis pas sûre que je le corrélerais forcément au lancement. Ça peut être, je te dis, un bon moyen aussi de réactiver ces produits-là en disant, bah regardez, maintenant on a fait un pop-up éphémère avec tel distributeur et à cette occasion, je sais pas quoi, on vous offre quand vous achetez un produit la petite brosse qui va bien avec, enfin je te dis n'importe quoi, hein. Mais du coup ça peut être un moyen de réactiver. Tu peux le faire dès le début, mais en fait, d'une certaine manière, t'es un peu en train de griller des cartouches parce que d'abord, tu vas faire ton lancement qui va marcher sur une certaine clientèle en tout cas, donc autant qu'elle marche sans avoir à payer le prix de la distribution. Et ensuite, dans un deuxième temps, j'utiliserai plutôt ce levier pour aller chercher une nouvelle clientèle.
Et tu vois, tu disais, ben, y a des produits qui vont faire un peu des petites vaguelettes ou parfois on peut se planter ou ça stagne ou... Est-ce que comment tu réagis dans ce genre de cas?
Ben écoute, j'essaye de réagir avec le plus de lucidité possible, et parce que je pense que quelque chose qui est fréquent, c'est qu'on confond la persévérance et l'acharnement, et on se dit non, mais ce produit c'est un bon produit, ils ont pas compris, c'est moi qui ai raison, et en fait il faut absolument qu'on continue à investir dessus. Si j'investissais plus en marketing, si je faisais de la pub télé, si ça marcherait. Mon expérience, c'est que ça peut changer, et parfois il y a une question de timing, c'est vrai, mais souvent qui ne se joue pas quelques mois après, ça se joue sur des années. Donc oui, ça peut faire un impact, si tu veux, sur la perception d'un produit. Un produit qui devient dans l'air du temps alors qu'il n'était pas. Mais globalement, si tu veux, il faut déjà être assez lucide, et quand tu vois, et il faut regarder vraiment les signaux faibles, quand tu vois qu'un de tes produits fonctionne à peu près, mais c'est pas non plus la fête du slip, il faut, tu vois, le voir avec lucidité, quoi. Donc ça, je dirais, c'est la première chose. Comment est-ce que tu réagis? En fait, il y a une infinité de cas. T'as le cas où, en fait, c'est quand même un produit qui rapporte suffisamment pour que t'aies envie de le garder. T'as des cas où, franchement, sincèrement, c'est un échec, et il faut le voir, et il faut se dire, du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retire ce produit? Est-ce que je renouvelle ce produit? Je le modifie, parce qu'il y a peut-être des modifications à prendre en compte. C'est possible aussi. Nous, par exemple, il nous est déjà arrivé un nombre de fois très important chez Gémio de faire des lancements produits qui fonctionnaient un petit peu, mais on est très attaché au retour des clients, et on avait certains retours qui nous disaient, là, esthétiquement, j'aurais préféré que ça soit fait de telle manière, etc. Et en fait, on s'est beaucoup posé la question, mais très souvent, on reprend les modèles et on les adapte. Je te dis pas qu'il faut qu'il y ait deux clients qui te le disent, mais si c'est quelque chose de récurrent où tu te rends compte que potentiellement en fait ça va changer la perception de ce produit, eh bien on fait ces ajustements. Je préférerais pouvoir les faire plus en amont. Malheureusement, la vie est ainsi faite que c'est au moment vraiment où les clients en fait touchent entre leurs mains ton produit qu'ils s'en rendent compte. Et donc nous, il nous arrivait fréquemment, tu vois, d'adapter nos produits a posteriori et ensuite de les relancer derrière en expliquant, parce que ça c'est notre style chez Gémio d'être très transparent et honnête. En expliquant justement qu'on a pris en compte les retours de nos clients et qu'on a adapté le produit. Et donc là, bam, deuxième lancement. Et parfois, ça décolle à ce moment-là, tu vois. Donc, je te dirais qu'il y a plein de cas particuliers. Et à l'inverse, t'as des cas dans lesquels t'as même pas envie d'essayer de reprendre le produit parce qu'en fait, tu te rends compte que juste, bah, tu t'es planté et qu'en fait, c'était pas ce que tes clients voulaient. Donc, je te dirais là-dessus que le plus important, c'est d'être assez lucide. Il faut pas que tu le fasses au bout de 2 mois parce que probablement ça met un peu plus de temps que ça, tu vois. Mais tu vas te rendre compte que assez rapidement, quand même, tu vas avoir un bon instinct de ce que tes clients ressentent. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est très, très important que tes conseillères en boutique, essayent de te remonter, tu vois, toutes ces infos pour que toi, t'aies aussi cette vision. Et si t'as cette vision via tous ces petits signaux faibles, ça te permettra d'arbitrer et d'ajuster en fonction.
Et je pense au cas contraire où là carton plein,
produit
en rupture assez rapidement. Ça vous est déjà arrivé ou après du coup tu peux plus honorer les commandes pendant une certaine période ou?
Tout à fait. Ça nous est arrivé et du coup dans ce genre de cas, alors nous on a une petite cartouche avec Gemio, c'est qu'on peut augmenter les délais de fabrication, ce qu'on fait d'ailleurs. Et il nous est arrivé par période. On est traditionnellement sur des délais de 3 semaines chez Gemio de fabrication, parce que les bijoux sont fabriqués sur mesure pour les clients. Mais il nous est arrivé d'être à 8 semaines de fabrication parfois quand vraiment ça devenait très compliqué parce que ça reste des métiers artisanaux. Et donc c'est vrai que la demande quand elle est trop forte par rapport à la réalité de du monde de l'artisanat français, c'est pas toujours facile à suivre. Mais donc toi, il faut que tu vois, tu peux faire peut-être une pause et tout simplement dire qu'il y a une rupture de stock, en profiter à ce moment-là pour récupérer en fait les personnes qui sont intéressées et tu pourras les relancer au moment où tu vas faire un réassort. Ça, c'est quelque chose qui se fait et honnêtement qui fonctionne très bien. Donc si ça arrive, franchement, j'ai envie de te dire good for you, problème de riche. Ça n'arrive pas toujours, faut quand même se le dire, mais si ça t'arrive, c'est formidable parce qu'à ce moment-là, il faut juste essayer de produire au plus vite et tout en gardant bien sûr la qualité, faire des réassorts et puis bien sûr informer les clients qui souhaitaient ce produit, que vous êtes à nouveau en capacité de livrer. Donc c'est plutôt un problème positif. Si tu arrives à faire ça, tu sauras que quand tu refais un deuxième lancement, là, tu pourras investir plus fortement en marketing, tu vois, et dépenser plus, si j'en reviens à ta question du budget, parce que typiquement, a priori, ça veut dire qu'il y a de la demande dessus.
Est-ce que tu sollicites, toi, en amont aussi, parfois, ta communauté, quand vous voulez créer un produit, ou pas forcément?
Sur la joaillerie, on le fait pas trop, parce que il y a beaucoup de questions de propriété intellectuelle, de concurrence qui font que c'est un petit peu compliqué de le faire. En revanche, par exemple, sur mes formations, moi, je sollicite systématiquement ma communauté pour littéralement leur poser la question, c'est quoi les thèmes qui vous posent un problème en ce moment et pour lesquels vous aimeriez une formation? Est-ce que ce thème vous intéresse? Comment vous aimeriez que je le traite? Quelles sont les questions que vous posez à ce sujet? Donc là-dessus, au contraire, je vais vraiment énormément chercher puisque j'essaye d'aider, si tu veux, de toute façon, cette communauté. Donc autant que je leur pose la question pour leur demander ce qui leur pose problème. Et du coup, là-dessus, je le fais. C'est vrai que dans le cas de Gemio, malheureusement pour les ongles, je t'ai expliqué, on peut pas trop le faire. Je pense que toi, je connais pas bien le métier de la cosmétique, donc peut-être aussi que les enjeux de concurrence sont tels que c'est compliqué, mais peut-être que vous pouvez vous permettre de le faire, c'est possible.
Ouais, sur des sujets où on questionne, ça nous arrive de faire des sondages ou des newsletters pour collecter les avis, les retours, ce qui manque, ou même sinon a posteriori, tu vois, on lance un produit et puis après. À travers les avis,
les questionnaires de satisfaction.
Ouais, et les questionnaires de satisfaction, ça permet de collecter toutes ces infos.
Top. Écoute, j'espère t'avoir quand même donné 2-3 conseils utiles. C'était peut-être un peu théorique, mais en même temps, je t'avoue qu'il y a tellement de cas particuliers de lancement, je serais mal à l'aise à l'idée de te dire voilà la recette magique parce que c'est faux, il y en a pas. Et comme t'as compris déjà entre mes deux activités, les lancements sont très différents. Mais je pense quand même que les quelques grands principes que je t'ai donnés, enfin en tout cas j'y crois. Donc je ne sais pas si ça va t'aider, mais j'espère que ça sera le cas. C'est tout ce que je peux te dire.
Si, merci beaucoup Pauline. Si, ça va m'aider la notion de temps long et pas juste de lancement très court-termiste, elle me parle beaucoup et je trouve ça très très chouette. Voilà, donc si ça se trouve, rendez-vous dans 4 ans pour faire le bilan.
J'espère bien, écoute, je compte sur toi Julie.
Avec plaisir en tout cas, merci beaucoup Pauline, c'était toujours très intéressant.
Merci à toi pour ta question et puis certainement à bientôt du coup.
À bientôt, au revoir Pauline.
Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous a plu. J'ai pour ma part passé un très bon moment. Bah, si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à diffuser cet épisode, bien sûr, autour de vous, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, et j'en passe. Et puis, pourquoi pas un peu de bouche à oreille, hein, de vive voix, ça marche aussi. Et puis surtout, si vous souhaitez postuler à une leçon, eh bien, c'est très simple. Vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux, Pauline Legno sur Instagram, sur LinkedIn, Pelegno sur Twitter. Et puis, pourquoi pas avec hello@paulinelegno.com. On répond à toutes vos questions. Merci à toutes pour votre attention et puis je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!